France Inter.
L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Maria Pasquet à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Céline Guéribi à la console.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Si on veut comprendre l'homme, on peut, à la manière du philosophe, se replier sur soi-même et essayer d'approfondir les données de la conscience. On peut essayer de regarder ce qui, dans les manifestations de la vie humaine, est le plus proche de nous, considérer notre histoire depuis ses origines gréco-romaines jusqu'au temps moderne, ou bien on peut essayer d'élargir la connaissance de l'homme pour y inclure les sociétés les plus lointaines et qui nous paraissent les plus humbles et les plus misérables, de manière à ce que rien d'humain ne nous reste étranger.
C'était Claude Lévi-Strauss sur TF1 en juin 1977. Alors au travail, nous allons faire de la philosophie, de l'histoire, de l'anthropologie au cours de cette émission, en compagnie de ce qu'on appelle une référence. Rappeler de façon exhaustive son CV prendrait un temps fou, aussi nous contenterons-nous, de dire qu'il est médaille d'or du CNRS, professeur émérite au Collège de France, qu'il a fait le tour des universités du monde entier et que ses livres se comptent par dizaines. Le dernier en date est publié au Seuil, politique au pluriel du Faire Monde, un manifeste cosmopolitique. Philippe Descola, c'est Albert Camus qui écrivait que mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. On compte donc sur vous pour bien les nommer, ces objets. Comment pourriez-vous définir la cosmopolitique, sachant que vous rappelez d'ailleurs dans cet essai, dans ce livre qui est une reprise d'ailleurs de certaines des conférences que vous avez menées, que l'objet c'est de donner une idée de certains des éléments constitutifs des cosmopolities. Alors de quoi parle-t-on exactement ?
Alors, le terme cosmopolitique, c'est Kant qui l'a mené sur la place publique, avec son idée que tous les êtres humains autour de la planète avaient une égale dignité. Et dans son projet de paix perpétuelle en particulier, il insiste sur le fait qu'une dimension fondamentale de la cosmopolitique, c'est l'hospitalité. Et c'est une chose extrêmement importante, surtout à l'heure actuelle, où l'hospitalité est très maigrement consentie dans les grandes nations du Nord, en particulier vis-à-vis des migrants. Mais il y a quelque chose qui manque dans la cosmopolitique de Kant, c'est le cosmos précisément. C'est un cosmos qui est un peu dépeuplé, parce que il n'y figure que des humains. Or, ce que j'entends par cosmopolitique, c'est un monde beaucoup plus dense, en quelque sorte, où il y a des plantes, des animaux, des esprits, des divinités, des artefacts, des idées, etc. Et c'est ce cosmos mieux peuplé, si je puis dire, qui m'intéresse parce que nous sommes à une période de notre histoire des modernes dans laquelle les rapports entre la nature et la société sont devenus poreux, en quelque sorte. On appelle ça l'anthropocène en général, c'est-à-dire l'idée que les humains sont devenus une force géologique et par conséquent les institutions que nous avons héritées de la philosophie des Lumières et qui séparent nettement la gestion des humains, des libertés civiles, des libertés politiques d'un côté, et puis la gestion des autres qu'humains, c'est-à-dire essentiellement le droit de propriété. Cette séparation entre deux régimes paraît difficile à maintenir, puisque nous sommes de plus en plus entremêlés, en quelque sorte, avec des phénomènes qu'on appelait jadis naturels. Et par conséquent, le régime politique qui s'est instauré avec les Lumières, qui s'est instauré avec la cosmopolitique de Kant, justement, doit être profondément transformé. Et je me suis permis de m'y intéresser, parce que comme anthropologue, je suis familier avec des cosmopolitiques qui sont très différentes de celles des modernes. Quand je parle des modernes, c'est cette façon de faire monde qui s'est instaurée en Europe à partir du XVIIe siècle et qui est fondée précisément sur cette grande distinction entre ce grand partage entre nature et société qui, d'une certaine façon, définit toute la période moderne et en particulier présuppose ces institutions.
Mais Philippe Descola, comment est-ce que l'anthropologie peut nous proposer des façons alternatives de vivre et nous rendre peut-être un peu moins myopes, comme vous l'écrivez, sur le temps présent ?
Alors, l'anthropologie n'a pas vocation à proposer des modèles de vie.
Non, mais elle peut nous aider.
Elle peut nous aider en ce sens qu'elle peut nous faire sortir de ce que François Hartog appelait le présentisme, c'est-à-dire l'illusion, au fond, que nous vivons un présent perpétuel.
Ce qui est tout à fait le cas de notre époque, non ?
Ce qui est tout à fait le cas de notre époque, mais à la différence d'autres sciences sociales comme la sociologie, comme l'économie hétérodoxe, qui s'efforcent de dévoiler, en quelque sorte, des mécanismes à l'œuvre dans l'aliénation, les formes de domination.
Oui, mais on voit bien que ça ne suffit plus.
Dans l'assujettissement, l'anthropologie, ce qu'elle fait depuis ses débuts, c'est de proposer et de décrire des formes alternatives de vivre la condition humaine qui sont autant d'expériences collectives. C'est ce que Claude Lévi-Strauss disait dans le petit texte introductif que vous avez passé. En somme, les anthropologues, ce sont des philosophes qui sont sortis de leur poil, le fameux poil de Descartes, pour faire l'expérience du vaste monde et expérimenter en partageant la vie de populations très différentes des leurs, des manières collectives de penser, des formes de vivre ensemble, ou même des formes de penser au sens plus immédiat. De ce point de vue-là, Rousseau, auquel Lévi-Strauss prêtait d'avoir inventé les sciences sociales, disait « Les particuliers ont beau aller et venir, la philosophie ne voyage point. » Et en fait, ce qui s'est passé avec l'anthropologie, c'est que la philosophie a commencé à voyager.
Mais c'est précisément parce que vous aviez cette envie, ce besoin de voyager, que vous vous êtes dirigé vers l'anthropologie, parce que au départ, il me semble que vous aviez plutôt... vos préférences allaient plutôt à la philosophie.
Oui, j'ai été formé comme philosophe. C'est un phénomène qui est assez caractéristique de l'anthropologie française et même de la sociologie depuis ses origines, depuis Durkheim, puisque la plupart des anthropologues et des sociologues, ou beaucoup d'entre eux en tout cas, ont été initialement en France formés à la philosophie. Mais pour les anthropologues, précisément, c'est la volonté de sortir du poil, c'est-à-dire la volonté d'aller voir ailleurs comment on pensait, et non pas en se contentant de passer de longues heures de veille sur des expériences de pensée qui ont été transmises de génération en génération par une cohorte de grands esprits depuis deux millénaires et demi.
Mais comme vous le disiez à l'instant, c'est très cartésien, ça, comme démarche.
Alors, je ne sais pas si c'est très cartésien, c'est en tout cas, c'est fondé sur un désir d'élargir la base des connaissances sur laquelle la réflexion s'appuie pour comprendre quelque chose de la façon dont les humains s'insèrent dans le monde, en retiennent certaines propriétés, certaines pour leur usage et d'autres pour les penser et en faire des cosmos particuliers, en faire des mondes particuliers. Donc cette science très particulière de l'anthropologie, qui est, il faut le dire aussi, et Lévi-Strauss il en était tout à fait conscient, et fille de l'expansion coloniale, puisque la curiosité pour les façons de faire d'autrui est née dès le XVIe siècle, avec la première expansion coloniale ibérique dans les Amériques. Mais il ne faut pas tenir de cette sorte de péché originel, des conditions dans lesquelles l'anthropologie et la réflexion sur des populations très différentes des nôtres a pu naître, pour condamner l'anthropologie, qui est au contraire une volonté d'essayer de comprendre la diversité humaine et de ce fait de la promouvoir d'une certaine façon.
Le sociologue, anthropologue, théologien et philosophe des sciences, Bruno Latour, c'était sur Arte en 2021, dans un film d'entretien avec Nicolas Truong.
Quand on dit moderne, généralement il y a un mot d'ordre, c'est « modernisez-vous ». On veut moderniser l'université, moderniser l'État, moderniser l'agriculture, etc. Et c'est une organisation du sens de l'histoire, c'est de dire « nous avançons » et derrière, c'est l'archaïsme. Dès qu'on vous dit « modernisez-vous », vous êtes tout de suite aussi en train de paniquer parce que vous allez vous dire « mais si je rate le train de la modernisation, je vais être
dépassé,
éliminé. Et si je garde, je deviens réactionnaire. » Donc, ce que je considère comme ma contribution, c'est de dire « moderne », je ne vais pas l'étudier comme un mot d'ordre, mais comme un sujet de recherche. Et je me suis aperçu au fur et à mesure de mes... Là, c'est vraiment 50 ans d'études, qu'il n'y a pas de sujet qui soit clarifié par le fait de dire « ça, c'est moderne et ça, c'est pas moderne ». Il n'y a pas un seul sujet, en particulier l'histoire des sciences. Parce que si vous dites « les modernes sont ceux qui enfin ont compris la différence entre l'opinion d'un côté, la culture, la subjectivité, etc., et la nature, et qu'on les sépare bien », il suffit d'étudier l'histoire des techniques ou des sciences pour voir qu'ils font exactement le contraire. C'est-à-dire que les modernes sont ceux qui ont au contraire mélangé de façon la plus extrême, la plus magnifique aussi, en certains cas, la politique, la science, la technique, le droit, dans leur empire, en quelque sorte. Quand même, maintenant, on peut dire, le front de modernisation, dont nous nous apercevons en ce moment que c'est un front de destruction, c'est une parenthèse. La parenthèse se referme.
Voilà, la modernité, c'est fini, Philippe Descola. Après, parce que Bruno Latour parlait de 50 ans d'études, vous aussi, c'est 50 ans de recherche, 50 ans de réflexion. Vous souriez.
Je souris parce que c'est aussi 30 ans de dialogue avec Bruno Latour, qui était un ami très proche. Et nous avions, en fait, un différent sur la caractérisation de la modernité, puisque selon le titre d'un de ses livres les plus connus, nous n'avons jamais été modernes. Et il me semble que pour moi, nous avions été modernes parce que nous envisageions les choses de points de vue différents. Lui, du point de vue de l'étude des sciences et des techniques modernes, dites modernes, et moi, du point de vue des sociétés, des collectifs que j'appelle extra-modernes. Et de ce point de vue-là, il y avait une différence qui était assez nette, c'est que du point de vue des collectifs extra-modernes, la nature n'existait pas. La nature comme champ de recherche, la nature comme un domaine d'objets extérieurs aux humains n'existait pas. Et Bruno Latour disait, oui, elle n'existe pas non plus pour les modernes. Mais elle existait néanmoins sur le plan de la constitution moderne, sur le plan philosophique. À partir du XVIIe siècle, on commence à faire cette séparation. Et ce que disait Bruno Latour, c'est qu'on la faisait dans les textes, mais on la faisait pas en pratique. Et donc notre différence d'appréciation venait du fait que il me semblait qu'à partir du moment où on le faisait dans les textes, ça avait des effets sur les pratiques. Voilà.
Mais ça veut dire que si on sépare nature et culture, par exemple, ça veut dire que on donne à l'humain, à tout ce qui n'est pas non-humain, on donne des droits sur le plan juridique.
On donne des droits, on donne des capacités, et surtout on transforme les autres qu'humains en choses. Désubjectivés, un monde désenchanté, pour reprendre l'expression de Weber. Et autrement dit, le développement des modernes, et notamment le développement politique et économique qui a abouti à l'émergence du capitalisme industriel au XIXe siècle, est en partie conditionné par cette grande révolution anthropologique qui a été l'expulsion des autres qu'humains hors de la sphère sociale et de la cosmologie des humains. leur transformation en choses, c'est-à-dire en ressources qui pouvaient être exploitées sans merci et sans forme de réciprocité, ce qui est une chose très nouvelle dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que toutes les civilisations ont eu à cœur de nouer des formes d'échange avec les autres qu'humains et n'ont pas considéré qu'elles étaient en quelque sorte comme un dépôt de vivres dans une chambre froide où on pourrait venir se servir sans jamais rendre de compte. C'est ça la grande nouveauté au fond de la modernité et dont les effets se mesurent précisément à ceci que les autres qu'humains sont devenus des choses. Et ça, c'est quelque chose d'important, je pense, même si dans la pratique, les scientifiques et les techniciens mélangent nature et culture, dans les faits, le fait que les autres qu'humains soient des choses a des conséquences politiques et économiques centrale.
Philippe Descola, vous êtes l'invité de L'Heure Philo pour ce livre intitulé « Politique au pluriel du faire monde », qui est à la fois une synthèse de certains de vos travaux, mais aussi un aiguillon pour penser autrement. La chouette, Lonely Drifter Karen.
There's a star outside my window, I can see it clearly shine. Je ne trouve pas mon ami, la chouette se joue de la nuit. There's an owl in the woods, I can hear it moan low. Je ne trouve pas mon ami, la chouette s'est évanouie. Roll, rock around you, oh ho. Roll, rock around you, oh ho. Can't escape destiny, dear dum dear dum dear dee. Can't escape destiny, dear dum dear dum dear dee. Can't escape.
Chouette, ça vous met en joie, non, Philippe Descola?
Ah oui, tout à fait. J'aime beaucoup entendre la chouette et j'ai la chance d'habiter dans la banlieue ouest et de temps en temps, j'entends une chevêche au milieu de la nuit et ça me réconforte. Oui.
Exister, c'est différer. Est-ce qu'il faut élargir notre altérité et sortir? Alors là, je vous cite parce que je dois dire que j'ai souri en vous lisant. Sortir du modèle du boutiquier provincial euro-américain, Tartuffe et égoïste.
Oui, alors, à travers ce personnage fantasmatique, je m'imagine, au fond, l'individu tel qu'il est conçu par la philosophie rationaliste anglaise, en particulier par Hobbes, par Locke, comme étant le fondement, en quelque sorte, le pivot du corps social, du corps politique, que l'État a pour mission de faire interagir avec d'autres individus du même ordre en garantissant leur forme d'échange et leurs interactions conçues sous les formes d'interactions marchandes. Et ce personnage, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois solitaire, uniquement égoïste, préoccupé de faire valoir ses propres intérêts, et au fond l'archétype de l'humain tel qu'il s'est progressivement défini dans le monde des démocraties libérales. C'est un personnage qui est inconcevable pour bien des collectifs extramodernes qui sont fondés sur la multiplication des attachements entre des humains et des humains avec des autres qu'humains. Ce que nous avons fait, nous, c'est au contraire de supprimer tous ces attachements pour créer ce fantôme, ce personnage, cet individu qui devient l'élément central, en quelque sorte, de la vie sociale.
Et qui est censé être universel.
Et qui est censé être universel, bien sûr. Alors, la philosophie des Lumières a apporté avec elle beaucoup de choses importantes. Je pense en particulier à l'idée de garantir certaines libertés personnelles qui sont fondées sur une théorie de la nature humaine qui elle-même en fait n'est pas universelle. Et donc le problème auquel nous devons faire face, qui est le grand problème du 21e siècle, c'est de réconcilier certains des acquis de ce que la philosophie des Lumières nous a légués avec la diversité des façons de faire monde, de façon d'être au monde, que l'anthropologie et l'histoire ont pu montrer, et qui en même temps continuent à prospérer dans les marges, dans les limites du monde moderne, dans toutes les populations autochtones qui luttent contre la domination et la spoliation territoriale. Et ça, les anthropologues sont aux premières loges pour connaître en fait de ces situations, et qui non seulement luttent mais essayent de formuler certaines des caractéristiques de leur façon de faire monde vis-à-vis des modernes, de façon à protéger à la fois leur mode de vie sans conservatisme, c'est-à-dire en s'adaptant aux circonstances, mais sans renoncer à des choses plus fondamentales qui deviennent, de ce fait, immédiatement visibles pour eux, du fait de la domination à laquelle ils sont soumis. Il y a une longue tradition aux États-Unis de chefs indiens qui, parce qu'ils ont été parmi les premiers à être exposés à ce mouvement de domination, de spoliation territoriale.
Exposés, quelquefois exterminés.
Exterminés, oui, mais ceux qui survivaient étaient dans une position privilégiée, si je puis dire, pour rendre compte vis-à-vis des colons euro-américains, des spécificités de leur propre monde comparativement à celui qu'on voulait leur imposer. Et c'est un mouvement qui n'a pas cessé, dont nous sommes encore à l'heure actuelle, nous, anthropologues, les témoins.
Philippe Descola, je voudrais vous faire écouter un extrait d'un film, I'm the Nature, c'est un documentaire en fait, où il est question du peuple achuar de la forêt amazonienne équatorienne, cher à votre cœur. Alors celui qui parle s'appelle Shumpi Washikiat.
The achuar people really love the way of living in this part of the world. We peacefully live in a simple way. I would like to leave this to the future generations. That's what we would like to share to the world. When I was a boy, I was sent into the jungle, and I had a vision to travel to the United States in order to learn to speak English, and it has happened already. So many things I have seen in the Western world. A lot of individualism. But even that we come from different countries, you know, from different parents, we are brothers and sisters because we are the son of the same planet Earth. Same Arutam, God of Nature.
Alors, je ne sais pas si c'est le cas des auditeurs qui sont en train de nous écouter. Moi, je veux dire que j'ai la chair de poule. Je résume, grosso modo, ce qui vient d'être dit. On vit bien dans cette partie du monde, en paix et simplement. J'aimerais laisser cela aux générations futures. Quand j'étais petit garçon, j'ai été envoyé dans la jungle. J'ai eu la vision, comme ça, d'un voyage aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Tant pis ce qu'il a fait, et puis on se rend compte qu'il le parle drôlement bien. J'en aurais vu des choses à l'étranger, poursuit-il. Beaucoup d'individualisme, et pourtant, nous sommes tous frères et sœurs. Enfant de la planète Terre, Philippe Descola.
Alors, ce à quoi Chumpi Washik fait référence, c'est à cette expérience initiatique caractéristique principalement des jeunes garçons, quelquefois des jeunes filles, qui consiste à partir en forêt, à prendre une plante psychotrope extrêmement puissante qui vous a jeûné aussi pendant plusieurs jours, de façon à obtenir une vision. Et cette vision, qui est une vision terrifiante en général, se transforme tout d'un coup en une sorte d'ancêtre, un personnage qui a jadis existé, qui vient vous transmettre un message quant à votre futur. Au fond, votre biographie dépend en partie de ce message, de cette vision que vous allez recevoir. Et c'est donc très caractéristique, au fond, de la civilisation Hatchoire que cette expérience initiatique, et à l'évidence, pour votre interlocuteur, l'expérience a été positive. Je fais juste un petit bémol. Les Hatchoire ne vivaient pas complètement pacifiquement. C'était une société guerrière où la vendetta jouait un rôle important. Et l'une des raisons pour aller obtenir une vision à Rutam par la suite, après la première qu'on obtenait quand on était très jeune, adolescent, était d'avoir participé à un raid guerrier, de façon, parce qu'on perdait à ce moment-là la puissance de la Rutam, et il fallait la renouveler. Cela dit, les Hatchoire sont devenus maintenant de pacifiques, ils n'étaient pas tout à fait il y a une cinquantaine d'années quand j'ai fait leur connaissance pour la première fois,
voilà.
Mais ils le sont devenus maintenant parce qu'en fait ils ont des ennemis qui sont beaucoup plus puissants que ceux qu'ils se donnaient à l'époque, qui étaient leurs voisins autochtones, qui sont en fait les compagnies d'exploitation du pétrole qui visent à les priver de leurs terres.
Est-ce que vous diriez, Philippe Descola, qu'ils vous ont transformé?
Oh oui, sans aucun doute, c'est difficile de ne pas être transformé par une expérience de ce type-là.
Vous avez passé combien de temps leur compagnie en tout?
En tout, j'ai jamais fait le calcul. Oui, enfin, probablement de l'ordre de 5 ans.
Ouais.
J'y suis retourné en 2018 et j'envisage d'y aller une dernière fois pour leur faire mes adieux. J'ai reçu hier un message d'un jeune homme, enfin qui n'est plus tellement un jeune homme maintenant, qui était le fils de quelqu'un, d'un grand homme que j'ai connu lors de mon premier séjour. Et donc je sais à peu près ce qui se passe chez les Hatchoire grâce maintenant à la maîtrise des instruments de communication.
Eh oui.
Parce que toute cette jeune génération par l'intermédiaire des missionnaires essentiellement catholiques et protestants, se sont vus offrir des possibilités de faire à la fois des études sur place, par l'intermédiaire de l'école primaire, mais aussi de partir plus loin pour faire des études secondaires, voire supérieures dans certains cas. Et donc, il y a maintenant des cadres Hatchoire qui ont atteint pour certains d'entre eux une certaine notoriété parce qu'ils représentent à l'intérieur de la République de l'Équateur certains des Hatchoire vivent, ils sont partagés entre l'Équateur et le Pérou, ils représentent à l'intérieur de la République de l'Équateur des organisations autochtones dont le pouvoir politique est assez important.
Mais vous parliez tout à l'heure de collectif, comment est-ce que ça fonctionne dans leur société? Comment est-ce que c'est construit?
Alors, je parle de collectif pour éviter le terme de société. Pourquoi? Parce que société est quelque chose qui est comme nature ou culture, ou histoire, ou économie, des concepts qui ont été forgés par les modernes de façon à rendre compte de l'état dans lequel ils se trouvaient et de leurs aspirations comme sujet historique collectif. entre le XVIIe, le XVIIIe et le XIXe siècle. Et ce terme de société ne correspond pas véritablement à la façon dont beaucoup de peuples extramodernes conçoivent leur forme de vivre ensemble, parce que au sein de ces sociétés, il y a aussi beaucoup d'autres humains, d'autres qu'humains, ou bien des autres qu'humains qui sont conçus comme vivant dans leur propre société. Donc le terme collectif m'a paru plus adapté, parce que le terme de collectif ne préjuge pas de la nature des êtres qui sont assemblés dans un collectif, par contraste avec le concept de société qui, surtout depuis Durkheim, qui en a fait le concept majeur de la sociologie, est vu comme quelque chose, comme une instance extérieure et supérieure aux éléments qu'il compose, et qui sont de toute façon uniquement des humains qui se sont donné des conventions et qui de ce fait devient une sorte de modèle de référence, y compris dans la conversation courante. On entend ça tous les jours, c'est la société qui m'a fait ainsi, ou je paye ma dette à la société, etc., comme si c'était une sorte de divinité transcendante vis-à-vis de laquelle il faudrait se situer. Or, un collectif comme celui des Hatchoirs, c'est un collectif parmi d'autres collectifs, des collectifs composés de toutes sortes de formes de vie différentes, des plantes, des animaux, des esprits, qui sont en interaction les uns avec les autres, et même les collectifs humains sont vus à la manière des collectifs animaux ou végétaux comme étant caractérisés par dispositions physiques qui leur sont propres. Autrement dit, il n'y a pas d'humanité en général, mais le collectif des Hatchoirs et le collectif de leurs voisins Choix, par exemple, se diffèrent par le fait qu'ils ne parlent pas tout à fait la même langue, qu'ils ont des formes d'habitation différentes, qu'ils ont des parures, des armes, des outils qui sont différents, de la même façon que des espèces animales vont avoir des outils différents pour se déplacer dans le monde, pour l'utiliser, etc. Donc, évidemment, ça ne correspond pas du tout à la façon dont nous concevons, nous, une société.
Loin de là. L'ethnographe Florence Brunois-Passina, disparue en mai dernier, qui a étudié les peuples Kaswa de Papouasie-Nouvelle-Guinée et puis des Batoro d'Ouganda.
Pour les Kaswa, un arbre était précieux, pas seulement parce qu'il était utilisé par les hommes, mais aussi parce qu'il était très utile pour les animaux. Et donc, en fait, toute leur forêt était un système relationnel hyper complexe, mais saturé. Et tous ces liens tissaient leur monde et se réactivaient dès qu'on pénétrait, dès qu'on marchait. On mettait en branle le monde, quoi. Et le monde nous mettait en mouvement. Donc, on était vraiment dans un dialogue d'affordance où l'autre était vraiment accepté et intégré dans un système social à titre égal, sans pour autant tomber dans la bambification des animaux ou des plantes, mais ils reconnaissaient leur personnalité singulière, leur intelligence singulière, ils leur prêtaient bien sûr une certaine subjectivité, des capacités d'inventivité, et ça c'était pas de l'anthropomorphisme, c'était juste de l'observation.
Philippe Descola, vous êtes ému d'entendre Florence Brunois-Passina ?
Oui, tout à fait. Je l'ai accompagnée depuis qu'elle était étudiante dans son parcours et dans le développement de ses recherches pour l'essentiel en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et sa disparition a été un choc pour nombre d'entre nous parce que c'était une femme généreuse, éveillée et d'une extrême fécondité intellectuelle. Mmh. Et son travail d'ethnographie sur les Kaswa était quelque chose de tout à fait remarquable. Et j'espère qu'on va, nous sommes en train de le faire d'ailleurs, de réunir des textes qui n'avaient inédits de façon à les publier, ouais. De façon à poursuivre cette aventure intellectuelle au-delà de la mort.
Quand on parle de toutes ces visions du monde qui se traduisent aussi par des images du monde, est-ce que ce ne sont pas des choses qu'il faudrait apprendre tout petit ? Je vous pose la question parce que je crois que vous aviez tenu à une exposition qui avait eu lieu il y a quelque temps au musée du Quai Branly, où justement il était question de ça, de ces images du monde.
Alors, J'ai beaucoup travaillé au cours de ces dernières années. D'abord, il y a une douzaine d'années, dans cette exposition que vous mentionnez, La Fabrique des Images, puis dans un livre que j'ai publié il y a 4 ans, Les Formes du Visible, je me suis beaucoup intéressé à la façon dont ces différentes façons de faire monde se traduisaient dans les images. Et il m'a semblé que, au-delà des discours, c'est-à-dire au-delà de ce que les gens disent de leur passé, de leur présent, du rapport aux esprits, ou bien des traités de philosophie pour les modernes ou de médecine, il y a dans les images une façon de rendre visible l'invisible qui est un indice, un moyen de détecter au fond ce qui pour un collectif est fondamental, ce qu'ils vont retenir au fond des choses importantes dans leur environnement pour les construire en monde. Et ce qu'ils vont négliger. Autrement dit, les modernes, ça renvoie à ce que disait Bruno Latour tout à l'heure, les modernes vont négliger certaines choses. Il n'est plus question, effectivement, de vivre au milieu des esprits ou des divinités, mais on va détecter des choses invisibles, des particules, par exemple, élémentaires, grâce à des appareillages très complexes, et éléments invisibles qui vont être inclus, au fond, dans notre monde, de la même façon que les PET scans vont pouvoir nous donner accès au fonctionnement de la pensée, au fonctionnement du cerveau, en produisant, par exemple,
des PET scans chez les hachoirs.
Des phrases. Je pense pas que ce soit très utile pour savoir quel est leur monde, mais rien n'interdit qu'un hachoir devienne un spécialiste de neurosciences et intègre à son monde des PET scans de la même façon qu'un spécialiste de neurosciences, il est relativement libéral d'esprit, et s'il partage la vie des hachoirs pendant quelques décennies, pourra dans certaines circonstances faire comme eux, c'est-à-dire détecter du fait de certains indices dans l'environnement la présence d'un esprit. Donc ce ne sont pas des mondes, ce ne sont pas des bocaux qui sont complètement isolés les uns des autres. On peut naviguer d'un bocal dans l'autre, et au fond c'est ça ce que font les anthropologues. Ils sortent de leur bocal pour rentrer dans le bocal d'autrui. Toute la difficulté consiste à traduire le langage d'un bocal dans le langage d'un autre bocal.
Vous êtes bien sur France Inter, c'est l'heure philo que vous écoutez. Philippe Descola est notre invité.
Especially if you sniff it all away.
Like That Anymore, c'était Lola Young sur France Inter. Philippe Descola, et je vous le rappelle, notre invité. Nous avons parlé de beaucoup de choses depuis que vous êtes là. On a parlé de collectif, on a parlé d'image, mais nous n'avons pas encore parlé d'ontologie. Si j'ai bien compris, il y a 4 ontologies. Est-ce que vous voulez bien nous dire à quoi elles correspondent, ces ontologies ?
Alors, par ontologie, je veux qualifier, au fond, ce qu'est le mobilier du monde pour un collectif particulier. Et donc, il y a, au fond, il y a beaucoup plus que 4 ontologies, mais il y a 4 dispositifs de filtrage dans un modèle que j'ai proposé il y a quelques années, au moyen desquels ces dispositifs, on va avoir tendance à sélectionner, comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans le monde qui nous entoure, des éléments qui sont pertinents et à en ignorer d'autres. Le premier contraste est celui que j'ai observé sur le terrain. J'étais venu avec, dans ma boîte à outils intellectuelle et dans un projet de recherche d'ailleurs, la séparation entre nature et culture. Je m'intéressais à la façon dont une société socialisait la nature chez les Alchois. Et puis je me suis rendu compte assez rapidement que ça n'avait guère de sens, parce que pour les Alchois, ce que j'appelais la nature, c'était en fait des personnes qui n'étaient pas très différentes des personnes humaines. C'était des personnes végétales, des personnes animales avec lesquelles on pouvait communiquer, avec lesquelles on pouvait échanger, avec lesquels, au fond, on faisait des deals, c'est-à-dire on les incitait pour les plantes cultivées à croître et à se développer, pour les animaux chassés à se laisser chasser, etc., etc. Et donc cette façon de voir les choses, j'ai constaté à mon retour en France et lorsque j'ai commencé à enseigner et à faire un séminaire de recherche que elle était assez commune dans d'autres régions du monde, d'abord dans toute l'Amazonie, ensuite parmi les Amérindiens du nord de l'Amérique du Nord, en Sibérie, dans certaines régions de Mélanésie, dans les remarques de Florence Brunois que tout à l'heure en atteste, et dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, et qui était fondée sur l'idée que les autres qu'humains étaient des personnes comme les humains du fait qu'ils étaient dotés d'une intériorité, une subjectivité, une capacité à éprouver des sentiments, à communiquer, etc.
Mais c'est ce qu'on appelle, par exemple, il y a l'animisme, il y a l'analogisme.
J'ai appelé ça l'animisme. Ouais. C'était un terme qui était tombé un peu en désuétude.
Mais j'ai appris que j'étais quelque peu animiste à titre personnel parce que je parle à mon chat. Et vous dites que quand on parle à son chat, on est un petit peu animiste. Mais en revanche, si on lit son horoscope, ce que je ne fais pas, on est plutôt analogiste. Donc en fait, on peut être un peu hybride.
Alors, chacun d'entre nous a la capacité de faire des inférences dans la construction de ces mobiliers du monde qui sont d'un type ou d'un autre, mais on aboutit à une ontologie lorsque ces inférences sont systématisées, c'est-à-dire que vous parlez à votre chat, vous parlez peut-être à votre rosier, ou moi j'ai un rouge-gorge qui vient me rendre visite tous les matins, et donc je le salue, bien sûr, j'ai
Philippe
l'impression
Descola,
qu'il me répond.
Animiste.
Mais cela dit, ni vous ni moi ne pensons que les chats et les rouges-gorges vivent dans des collectifs qui leur sont propres, avec des chamans, des chefs, des rituels, etc. Donc il n'y a pas de systématisation de ces inférences. Quant à l'horoscope, effectivement, ça correspond à ce que j'ai appelé l'analogie, c'est-à-dire l'idée que le monde est composé d'une infinité d'éléments disparates et que pour pouvoir donner sens, ne serait-ce qu'à la vie quotidienne dans un monde de ce type-là, il faut pouvoir établir des correspondances entre tous ces éléments, comme la correspondance, par exemple, entre macrocosme et microcosme, qui joue un rôle très important dans les collectifs analogies, c'est-à-dire l'idée qu'il y a entre le corps conçu comme un monde en miniature et le cosmos, le mouvement des planètes, etc., des correspondances. Cette idée qui est inexistante chez les animistes ou bien dans le totémisme australien, par exemple, est très puissante dans ce qu'on a appelé, dans ce que j'ai appelé les collectifs analogies, c'est-à-dire nous jusqu'à la Renaissance en Europe, ou bien l'Afrique de l'Ouest ou des civilisations de l'Extrême-Orient, qui mettent l'accent au fond sur ces chaînes de correspondance analogique, justement, c'est pour ça que j'ai employé le terme, entre des humains et des autres qu'humains, et des composantes des humains et des autres qu'humains. Autrement dit, on peut effectivement faire des inférences analogistes, lorsque peut-être pas tout à fait consciente, lorsque l'on consulte son horoscope, ça ne nous empêche pas d'être moderne par ailleurs, si je puis dire. Autrement dit, ces inférences connaissent une certaine fluidité qui et là, je pense que la plupart des ontologies sont d'une façon ou d'une autre un peu hybrides, surtout maintenant, avec du fait de la colonisation et de la globalisation des échanges, l'extension du naturalisme, le naturalisme étant précisément l'idée qu'il y a une séparation absolue entre nature et société, et c'est comme cette... Ce substrat, en quelque sorte, ontologique, s'est déployé dans l'espace, on observe toutes sortes de formes d'hybridation. Et lorsque vous évoquiez le film tout à l'heure réalisé par un hachoir, il y avait le terme nature. Or, il n'y a aucun terme en hachoir qui correspond à nature. Cela dit, quand on veut faire connaître ce qu'est un certain type de façon... d'être au monde, on emploie le terme européen de nature qui n'existe que dans les langues européennes.
Alors ici aussi, nous avons, mais ça correspond pas aux mêmes choses, c'est sans doute, enfin je ne sais pas, vous allez nous le dire plus politique, les collectifs, les microcosmes, reportage dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'était en avril 2018, où comment les zadistes revendiquent une chance de réinventer le monde dans lequel nous vivons.
Dans ce territoire de 1600 hectares, il y a une vie qui s'est constituée depuis 10 ans entre habitants historiques et squatteurs.
Là, c'est la boulangerie, brasserie et atelier pâtes.
Chaque semaine, j'ai une nouvelle recette.
Là, on a organisé un chantier collectif qui portait beaucoup sur la transmission de compétences, en fait. On a très vite eu l'envie et l'idée de faire un pied-à-terre pour toutes les luttes et que la rencontre, elle s'opère pas seulement à 30 personnes, mais plutôt avec un lieu comme ça à 100, 200, 300 personnes.
Bah là, en fait, tu creuses, il y a 20-30 cm de terre et après, il y a... un fond d'argile pour poser un aéroport dessus. Bon courage. Mais bon, ça c'est fait. Aéroport, les gens qui sont là en train de pinailler parce que y a 1600 hectares de terre qui sont squattés quelque part en France. Enfin, c'est que dalle.
Cette occupation, elle a duré 10 ans sur 2000 hectares, c'est du jamais vu.
Il y a des enfants qui sont nés ici, il y a des réflexions autour de c'est quoi vieillir ensemble sur la ZAD, de construire des maisons qui tiennent dans le temps, quoi.
C'est dur de se projeter à long terme parce qu'on me dit toujours, de toute façon, dans 6 mois, on va venir vous déloger, quoi.
Se projeter à long terme est du jamais vu pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Philippe Descola, vous vous y êtes rendu vous-même?
Oui, oui, je trouve que les collectifs alternatifs européens comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes sont très intéressants parce que ils montrent que des changements profonds dans la manière de construire une façon de vivre ensemble entre humains et entre humains et autres qu'humains sont possibles ici et là et ici et maintenant en Europe, puisque après le succès au fond de la l'occupation de ce qui devait devenir un projet pharaonique qui était l'aéroport, les zadistes ont créé une collectivité qui s'identifie profondément aux autres qu'humains de ce milieu très particulier qui est un bocage, et ont créé des institutions ou des formes de solidarité qui tranche au fond sur les formes économiques et politiques caractéristiques du capitalisme contemporain.
Ils ont même construit une université des Tritons, qui est consacrée donc à la sauvegarde du vivant. Malheureusement, il va falloir bien tous quitter, Philippe Descola. Là, on parle beaucoup de long terme, de court terme. Il faudrait peut-être s'attaquer au système, je ne sais pas. La politique, c'est quand même beaucoup du court terme.
Oui, bien sûr.
Voir, c'est quelque chose d'assez électoraliste, non ?
Oui, bien sûr. C'est pour ça que l'anthropologie et des expériences comme celle de Notre-Dame-des-Landes nous apprennent quelque chose, c'est qu'on peut transformer le monde dans lequel nous vivons. Et je prends pour cela un motif d'espoir qui est ce grand bouleversement qui a été la Révolution française, qui a été préparé pendant un siècle par des débats, des discussions dans les clubs, dans les salons à Paris, en province, et qui a tout d'un coup abouti à l'explosion. Le couvercle de la marmite a tout d'un coup sauté, alors que beaucoup de gens en 1780 n'auraient pas prévu au fond cette explosion. Et donc, je pense que c'est notamment le rôle des intellectuels de montrer que d'autres voies sont possibles, sans se transformer pour autant en prophète, mais en tout cas, en essayant d'ébranler, en fond, des certitudes établies depuis longtemps, mais qui sont en réalité que des certitudes temporaires.
En tout cas, la révolution conceptuelle est en marche, souhaitons-le. Merci beaucoup, Philippe Descola. Ce fut vraiment un plaisir que de vous recevoir. Ça, c'est une musique chamanique et peut-être d'ailleurs qui vous est due. C'est un enregistrement que vous-même vous avez effectué, Philippe Descola.
C'est pas impossible parce qu'en tout cas, c'est quelque chose de très familier pour moi.
Politique au pluriel du Faire-Monde, un manifeste cosmopolitique, est publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.
Merci Patricia Martin. Thank you.